Bien, mesdames, messieurs, merci de vous être rendus disponibles pour ce conseil municipal. On va rapidement commencer puisque tout le monde est là. Pour ceux qui n'ont pas pu se rendre disponibles, on vient d'avoir une réunion avec les services de Saint-Étienne Métropole et une association qui va gérer le compost et le déploiement des points de compost et les nouvelles règles. Donc très prochainement, vous allez être informés de ce qui se passe, surtout pour les personnes qui résident en habitat collectif, qui sont les premiers directement concernés. Pour l'habitat individuel, on va voir comment ça va évoluer dans le temps. Et c'est opérationnel dès le mois de décembre. C'est la collecte donc des déchets alimentaires. À l'issue du conseil, je demanderai hors conseil aux élus de rester pour que Jacques nous fasse un petit point de situation sur un dossier. J'ai reçu les procurations de Pierre Achard qui donne son pouvoir à Antoine Di Paolo et de Michel Baudry qui donne son pouvoir à Gilbert Savrosa. Donc, je vais demander à Mireille si elle est d'accord pour assurer le secrétariat du conseil municipal. Très bien. De toute façon, si tu n'es pas d'accord, tu sortais. Hein. Et on va passer à l'ordre du jour. Sur le procès-verbal de la précédente séance, est-ce que vous avez des commentaires? Donc on va le mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc le procès-verbal du conseil du mois de septembre est adopté à l'unanimité. Le premier point de l'ordre du jour, c'est l'état donc des décisions du maire. Donc il n'y a pas eu beaucoup de décisions sur cette séquence. Donc vous avez l'ensemble des décisions qui ont été prises. J'attire votre attention en particulier sur la convention d'honoraires avec maître Olivier Metzger pour une assistance juridique de la commune. Prestation assurée sur la base d'un taux horaire de 165 euros hors taxe. C'est un avocat qu'on a sollicité. Ce n'est pas le cabinet avec lequel on travaille habituellement, mais pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt dans la situation qui nous concerne, c'est un avocat d'un cabinet lyonnais qui sera notre conseil sur une problématique de recherche d'un consensus sur la situation du terrain du lycée Nord. On aura vraisemblablement un point de l'ordre du jour, mais comme au mois de septembre, qu'on va retirer. C'était là, alors je regarde rapidement, le point 3, protocole transactionnel avec la société Maeva, vous savez, pour la dépollution du terrain du Péchier. Au mois de septembre, on avait un projet de convention, mais on n'avait pas retour de leur part sur le montant global de la dépollution du terrain. On a reçu une facture d'un montant relativement important, mais qui appelle de notre part encore quelques interrogations. Frédéric Billon donc, les a formulées auprès des deux propriétaires de la société. On n'a pas eu de retour. Donc je propose qu'on ne tienne pas compte de cette délibération. On vous la représentera au mois de décembre quand on aura tous les éléments financiers. Donc le premier point, donc, vous avez des questions sur les décisions du maire? Donc le premier point concret, c'est celui donc, de la convention de mise à disposition d'un terrain communal pour la création d'un arboretum avec l'association Nature et Patrimoine. Est-ce que tu veux présenter le dossier, Jacques? Non? Bon, très bien. Alors, afin de valoriser le versant nord du Creil, l'association Nature et Patrimoine propose sa participation à la création d'un arboretum pédagogique situé sur le corridor écologique dans la zone naturelle en haut du Pressagnol, environ 3 hectares. Vous avez eu un plan, je crois, qui était diffusé avec le projet. Cette démarche s'inscrit dans le programme européen et national sur la biodiversité et notamment dans la protection du corridor écologique présenté par Saint-Étienne Métropole. L'arboretum pourrait se concrétiser sur plusieurs années avec l'aide de la municipalité. Et il comprendrait plusieurs dizaines d'arbres d'essences différentes choisis, ainsi que plusieurs dizaines d'arbustes d'espèces variées. Cet espace devra s'efforcer d'être pédagogique auprès des écoles et des habitants. Il sera défini comme zone de fraîcheur. Est-ce qu'il est utile que je vous lise le projet de convention qui est relativement court? Non? Bon, ce qu'il faut retenir, donc, c'est que la commune met à disposition de l'association Nature et Patrimoine un terrain, que Nature et Patrimoine se charge d'acquérir les arbres, arbustes et d'en assurer la plantation et l'entretien. Puis après, on a tout un ensemble de dispositions pratiques. Donc faciliter la rencontre des habitants de tous âges, de toute culture et de toute origine, renforcer une appropriation dynamique et responsable de l'espace public par une forte implication des habitants, par exemple du compost, permettre de créer des espaces d'initiative citoyenne, support de l'innovation sociale et urbaine et d'apprentissage à la coopération, susciter un rapport à la nature placé sous le signe du partage et du plaisir de se retrouver autour d'un projet commun. Voilà. Avez-vous des questions par rapport à cette démarche en ce qui concerne la commune? Après, la façon dont Nature et Patrimoine vont gérer dans le temps cette action, ça sera de leur compétence. Des questions? Je sais que parmi les élus, il y a donc nombre de membres de Nature et Patrimoine, donc ils seront priés de ne pas prendre part au vote. Donc il y a Jacques, Michel, bon, Claude. D'accord, donc il y a Jacques, il y a qui? Hubert, Mireille. Bon, ok, ben, vous vous abstiendrez. Bon, on va mettre le protocole au vote. Alors après, vous votez. Hein, voilà. Il n'y a que ceux qui sont au conseil d'administration ou au bureau qui doivent s'abstenir. Donc vous avez compris la philosophie, c'est de planter des arbres sur le bas du Pressagnol, dans un engagement sur la durée avec une vision, je dirais, pédagogique. Après, la commune, bon, est partenaire. Là aussi, je ne veux pas vous harceler, mais ça sera dans la limite aussi de notre accompagnement, hein, que ce soit philosophique ou surtout matériel. Très bien. Bon, alors, qui est contre cette convention? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, la convention de partenariat est adoptée à l'unanimité et je vous en remercie. Donc, le point suivant, c'était le protocole d'accord transactionnel avec la société Maeva. Donc, on a décidé de suspendre pour l'instant puisque le devis global ressort à... Je ne sais pas si vous avez été fourni. Je ne crois pas. Le devis global, donc, pour le terrassement, criblage, transport et retraitement des terres polluées, s'élève à 113 556 euros. Bon, on avait donc décidé d'en prendre 60% en charge. Simplement, il y a des composants de ce devis qui nécessitent des précisions. Donc, on suspendra l'examen de ce dossier ce soir. Le point suivant concerne... Donc, les conventions de réservation avec les bailleurs sociaux. On vous a remis en séance un tableau qui reprend donc... Alors, il y a un autre élément que vous avez dû avoir en séance. C'est celui... C'est l'immobilier Rhône-Alpes. Je vais passer la parole à Mireille. Sachez simplement que les 5 bailleurs sociaux de la commune nous soumettent, mais ça, c'est, je dirais presque une obligation, une convention de partenariat avec 2 paramètres. Le premier, c'est qu'on passe pour les logements sociaux d'une gestion en stock, c'est-à-dire un volume d'appartements ou de logements qui nous était dédié en contrepartie principalement des cautions qu'on pouvait apporter aux prêts souscrits par les bailleurs sociaux. Donc, en contrepartie, on avait un certain nombre de logements qui nous étaient attribués et pour lesquels, normalement, on était prioritaire dans l'attribution. Et donc, on devait être associé aux commissions d'attribution de ces logements. Ça, c'était de la gestion de stock. On avait, vous avez les chiffres, hein, par exemple, si on prend le bailleur le plus important, le Toit Forisien, 266 logements, 6 logements réservés mairie. On va passer en gestion en flux, c'est-à-dire en mouvement annuel. Et là, on s'aperçoit que dans ce nouveau calcul, mais ça, ce n'est pas une démarche imposée par les bailleurs, c'est une démarche imposée au niveau national, le mode de calcul de logements réservés, attribués à la commune, chute considérablement. Et je vais passer donc la parole à Mireille qui va nous expliquer tout ça. Donc, il faut rajouter un 5e bailleur social. C'est la fiche qu'on vous a distribuée en séance.
Et bonsoir à tous. Oui, en fait, l'immobilier Rhône-Alpes est arrivé après le dépôt de ce qui était prévu au conseil municipal. Donc jusqu'à présent, lorsqu'il y avait une construction de logements sociaux, la commune se portait garante pour les emprunts. Et en contrepartie, on avait 20%, ça ne pouvait pas aller plus loin, mais 20% de logements fléchés mairie, ville de Saint-Priest-en-Jarret. C'est depuis... le passage en flux, c'était prévu déjà depuis 2018 dans la loi Elan, la dernière loi qui a été concoctée par l'État. Et ce passage en flux, en fait, va se faire à notre détriment, au détriment de la commune, puisque nous n'aurons plus quasiment de logements à proposer aux personnes qui viennent nous consulter pour savoir comment on peut les aider pour avoir un logement. Il faut savoir que lorsqu'ils étaient fléchés ville de Saint-Étienne, on les avait pendant 15 jours, on pouvait positionner des personnes de notre commune à qui l'on souhaitait qu'on entourait pour l'attribution d'un logement. Maintenant, eh bien, ça va être un petit peu compliqué. Et d'ailleurs, ils nous demandent de leur déléguer. Le peu qu'on a, ils nous demandent en plus une gestion déléguée. C'est-à-dire qu'en fait, ils se passeront complètement de notre avis. Voilà, je vais vous lire donc l'élément d'information. Les collectivités territoriales et les établissements publics peuvent bénéficier, ça c'était donc avant ce passage en flux, peuvent bénéficier de logements réservés dans les programmes immobiliers construits par les bailleurs sociaux en contrepartie de leur garantie financière des emprunts. Ce taux de réservation au profit des collectivités ne peut globalement représenter plus de 20% des logements du programme immobilier du bailleur. Les logements réservés étaient jusqu'à maintenant identifiés en amont sur chaque programme immobilier. Donc, lorsqu'il y aura un nouveau programme, si on va certainement continuer à ce que l'on garantisse les emprunts, dans un premier temps, on aura 20% des logements, mais dès que qui seront fléchés, mais dès que ces logements seront libérés, ça passera dans le giron des bailleurs sociaux et nous les perdrons. Suite au décret du 20 février 2020, le décret 2020-145, la gestion des demandes de réservation basées sur cette gestion en stock, logement réservé, pré-identifié, va prochainement passer à une gestion en flux. En effet, les communes réservataires de logements sociaux n'auront plus de logements identifiés en amont sur les programmes immobiliers construits sur leur territoire. Dorénavant, le bailleur, chaque année, proposera à la commune un nombre de logements correspondant à celui fixé dans la convention. Je vous dirai le nombre de logements que nous récupérons. Le bailleur de plus nous sollicite pour que la commune lui délègue le ou les appartements identifiés comme réservés à la commune. Donc, il nous demande de signer une convention de réservation avec chaque bailleur avant le 24 novembre 2023. C'est valable pour tous les bailleurs. Bâtir et loger, c'est la même convention. Le toit forésien, la même convention. Ainsi que pour Habitat et Métropole, pour Alliade Habitat et Immobilier Rhône-Alpes. Le toit forésien, dans un élan de générosité envers nous, a juste rajouté un petit alinéa. Si on se porte garant dans les cas de réhabilitation, ils reverront éventuellement ce positionnement. Bon. C'est vraiment éventuellement. Donc, je vais vous dire combien il nous reste de logements. Par exemple, alors, bâtir et loger, nous avons 88 logements présents sur la commune. Réservé mairie, suite à ce conventionnement, on en avait 10. Ça passe à 1 sur un an. Le toit forésien, 266 logements présents sur la commune. Réservé mairie, 6, ça passe à 1. Habitat et métropole, 28 logements sur la commune, 6 réservés mairie, ça passe à 1 logement. Alliade Habitat, ça passe de... Alors, 53 logements présents sur la commune, on en avait jusqu'à présent 5 pour nous. On passe à 0,13, soit 0 logement. Et puis, l'immobilier Rhône-Alpes, on avait 29 logements présents sur la commune. Réservé mairie, 4. on passe à 0,33, on aura le droit à un logement tous les 3 ans. Alors, les logements, ce calcul, il est fait non plus sur la ville de Saint-Priest-en-Jarret, mais sur le département de la Loire, ce qui forcément réduit qu'on a un gros écart. Voilà. Donc, c'est vrai que la politique des logements sociaux sur la commune va se trouver franchement diminuée. Quid de l'accompagnement des personnes, de nos garanties, parce que pourquoi garantir des emprunts, prendre un risque pour pratiquement rien en contrepartie. Bon, moi, personnellement...
Alors, je crois qu'il faut voir les choses dans l'ordre. D'une part, au mois de septembre, et compte tenu de l'évolution de la gestion des logements sociaux, on vous avait proposé de demander à être habilité en guichet 1 pour gérer donc les demandeurs. Aujourd'hui, à mesure où on n'a pas de visibilité ni sur la nature des demandes, ni sur les attributions, je ne vois plus l'intérêt. Ça, on verra la façon de formaliser une décision de retrait de notre demande. Ensuite, comme l'a dit Mireille, il faut passer aux chiffres, parce qu'en fait, l'attribution en flux est fonction du nombre de logements dont dispose le bailleur sur l'ensemble du territoire. C'est pour ça qu'on a 1 alors qu'on avait 10 logements et 1 alors qu'on avait 6. Alors, les bailleurs sociaux, c'est aussi une obligation pour les communes. Vous savez qu'on doit être normalement à 20% ou au-delà. En ce qui nous concerne, je pense qu'au 31 décembre, nous serons en dessous du seuil des 20%. On devrait tomber à 19 quelque chose parce que c'est pas qu'on a perdu des logements sociaux, mais c'est que mécaniquement, quand on a un nombre de logements sociaux qui est fixe et qu'on a un nombre d'habitations non sociales qui augmente, la mécanique fait qu'on tombe en dessous des 20%. Vous savez qu'on a dans les dossiers d'actualité, qu'on n'évoquera pas ce soir, mais sans doute dès le mois de décembre, la perspective de construire à nouveau quelques logements sociaux pour passer au-dessus des 20%. Donc ça fait aussi partie, je dirais, d'un partenariat naturel. Il y avait du logement social, c'est une obligation pour les collectivités, pour les communes. Ben oui, on adossait notre partenariat avec une garantie d'emprunt. Bon. De toute façon, ça, à mon avis, la convention, elle est globale. Mais on ne peut pas la remettre en cause puisque c'est une convention qui confirme la gestion en flux et qui est une décision d'État. Donc on peut dire tout ce qu'on veut, la gestion en flux, elle s'impose. Par contre, et c'est là-dessus qu'on a voulu marquer le coup, le fait de dire vous avez 0,33 ou 0,13 et on vous demande de nous déléguer la gestion de l'entrée, je ne sais pas, le hall, la loggia. Bon, en plus ce chiffre, vous avez compris qu'il peut être revu chaque année en fonction de l'évolution du parc du bailleur. Bon, symboliquement, moi je ne me fais pas d'illusion, mais symboliquement, ce que je vais vous proposer, et c'est pour ça qu'on a préféré vous faire une présentation globale pour les 5 bailleurs, c'est de refuser les conventions. En disant, bon, passage en flux, dont acte, et l'attribution de 0,13 ou 0, où on passe de 10 à 1, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, je vais même dire à la limite, à l'accueil, on dira aux gens, allez voir les bailleurs sociaux directement, on ne va plus vous prendre en charge. On ne va pas le faire, parce qu'on a une tradition d'accompagnement de nos habitants, de nos demandeurs. On a des gens, je pense à Muriel, qui est formé, qui est opérationnel, et puis il y a toute une dimension sociale dans la rencontre avec le demandeur. Donc on ne demandera plus à être guichet numéro 1. Ça va réagir. J'ai saisi le bureau des maires de métropole de cette question. Alors, apparemment, il y a beaucoup de communes qui découvraient, en particulier, je pense, les communes rurales. On sait que normalement, mais ça, c'est à vérifier, Saint-Jean-Bonnefonds serait dans la même démarche, de dire, moi, je refuse. Hors de question que je délègue la gestion si maintenant on n'a plus rien à gérer, parce qu'en fait, c'est ça. On va alors les autoriser à gérer rien. Bon, c'est vrai que le toit forésien est un peu sensible à cette question. Bon, moi, je vous propose que symboliquement, on refuse de signer ces conventions. Ça va revenir, même peut-être avec un poids plus important par la préfecture, je ne sais pas. Mais au moins, on aura marqué le coup de dire, arrêtons de nous prendre pour des demeurés. Quoi. On est quand même conscient que là, on perd toute visibilité sur les attributions. Oui.
Oui, moi ce que je comprends pas bien, c'est cette histoire qu'on soit contraint de continuer à garantir les emprunts. Si cette gestion devient départementale, pourquoi ce n'est pas le département qui garantira les emprunts ?
Le logement, il est bien sur la commune. Ce n'est pas une gestion départementale.
Non, mais on nous dit que c'était un petit peu un geste qui était fait aux communes en contrepartie de ces garanties d'emprunt, etc.
Les communes sont partenaires quand on construit du logement social.
Oui.
Là, le mode de calcul, il est départemental. Parce que pour un bailleur social, on va regarder le nombre total de logements qu'il a sur le département. Mais ce n'est pas le conseil départemental qui gère ça. C'est le mode de calcul. Ça aurait pu être régional, ça aurait pu être cantonal, j'en sais rien.
D'accord.
Donc, c'est pas le département n'a rien à voir là-dedans. Après, on verra sur la problématique des emprunts. Bon, le dernier, vous le savez, c'est le toit forésien quand ils ont rénové. Après, on verra. Peut-être qu'ils ne se tourneront plus vers nous. Mais symboliquement, aujourd'hui, je vous propose de dire non. Non pas à la gestion en flux parce que ça s'impose à nous. Il y a des textes de référence. Mais au principe de déléguer parce que c'est pour la forme. Vous allez nous déléguer un logement bon, qu'on a estimé à 0,13, soit 0. Bon, je veux bien leur déléguer la gestion de 0. Mais 0 plus 0, ça a toujours fait 0. Enfin, il me semble, hein, maintenant, hormis la tête à Toto, bien évidemment. Voilà, donc simplement, comme les 5 bailleurs sociaux ont la même convention, sauf le toit forésien qui est plus embarrassé que les autres, bon, on va dire non, on ne signe pas une convention, on vous confie la gestion de quelque chose dont on a été dépossédé. Voilà. Donc, qui est... Alors, je reprends la formulation telle qu'elle avait été initialement prévue. Je vous demande de bien vouloir renoncer à la convention précitée avec l'ensemble des bailleurs sociaux. Qui est pour, alors contre cette renonciation, donc l'acceptation de la convention, qui s'abstient, qui est pour la dénonciation, à l'unanimité, nous allons donc renoncer à cette convention. Ce projet de convention, ça reviendra peut-être pas au mois de décembre, mais ça va revenir très vite à mon avis. C'est pour les 5 bailleurs sociaux. Alors, après. Donc on passe au point 8, décision modificative numéro 1 du budget de la commune. Et je passe la parole à Michel Bizassia.
Oui, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Oui, effectivement, comme toutes les années, en fin d'année, on vous propose les décisions modificatives du budget primitif qui a été voté le 27 mars. Je vous rappelle que le budget primitif est un document prévisionnel où on met des sommes en fonction de déjà de ce qu'on a dépensé l'année précédente et de ce qu'on estime nécessaire pour pouvoir faire face à nos dépenses dans l'année en cours. Bien entendu, ce ne sont que des prévisions, donc ça nécessite en fin d'année quelques ajustements parce qu'il y a des comptes qui ont été sous-estimés, d'autres qui ont été surestimés. Et on vous propose donc au mois de décembre, en principe, une décision modificative. Et on vous présentera peut-être une autre décision modificative en décembre, mais ça dépendra de si on a reçu quelques bonnes nouvelles ou quelques réponses sur des subventions, sur des demandes de subventions. Et puis surtout, en décembre, on vous soumettra les programmes à ouvrir d'urgence de façon à ce qu'on puisse commencer certains travaux d'investissement dès le mois de janvier. Parce que normalement, les travaux d'investissement ne peuvent pas être commencés tant que le budget primitif n'est pas voté. Comme il est voté fin mars, ça fait 3 mois où on ne peut rien faire, ce qui est un peu embêtant, surtout quand on a des gros travaux comme Jules Ferry. Donc, pour cette première décision modificative, elle s'élève en fonctionnement à la somme de 104 411,17 €. Et comme, bien entendu, le budget... il faut que ce compte soit équilibré, c'est-à-dire qu'on a trouvé 104 417 € de recettes en plus, qui sont essentiellement des sommes qu'on a reçues en plus de nos prévisions. Alors ça ne veut pas dire qu'on a forcément beaucoup reçu en plus, c'est qu'on est toujours très prudent sur les recettes. Hein. Parce que quand je vous présente les budgets, je vous dis qu'on est toujours un petit peu pessimiste sur les recettes et plutôt optimiste sur les dépenses. Enfin, plutôt, on gonfle un peu les dépenses pour être sûr de ne pas se retrouver coincé d'ici la fin de l'année. Donc, sur la taxe additionnelle de droits de mutation, on a pu rajouter la somme de 92 702 €. Et sur la dotation de solidarité, la somme de 11 715 €, ce qui fait bien la somme de 104 417 qu'on a répartie dans des postes où on en avait besoin. Il y a des postes qu'on a diminués. Comme vous voyez, énergie, électricité, on avait été très, très pessimiste et visiblement, on peut récupérer 25 000 €. Pareil sur l'achat de prestations de services. Par contre, il y a des comptes où on est obligé obligé de remettre de l'argent. Par exemple, on met 22 260 euros sur les contrats de prestation de services. C'est essentiellement la dernière délibération qui concernera le budget. Je vous la présenterai. C'est le passage de la comptabilité de la commune de nomenclature M14 en nomenclature M57. Bon, je vous expliquerai en quoi ça consiste. Mais c'est surtout qu'il nous faut un nouveau logiciel. Forcément à une nouvelle formation, et ça passe bien entendu, et comme en principe les logiciels sont très chers et les formations aussi, on a en rajouté 22 000 euros. Et sur études et recherches, je vous présente les plus gros postes, hein, je vous détaille pas tout. On a mis 10 000 euros, c'est pour, on est obligé de faire une étude topographique vers le monument aux morts, puisqu'on a le mur qui tombe, et avant qu'on retrouve le monument aux morts en bas, il faut qu'on fasse une étude de sol. Voilà. Et puis vous avez une grosse somme aussi en dépenses, c'est 68 552 euros contre 67,18 dans les charges exceptionnelles. Alors ça, c'est la délibération qu'on a reportée, notre participation à la dépollution du terrain du Péchier. Et vous verrez qu'on le retrouve également pour pas tout à fait la même somme, mais parce qu'il y a autre chose dedans. En investissement, parce que pour l'instant, on est incapable de dire s'il faut la payer en fonctionnement ou en investissement. Tout dépend sous quelle forme ça va se présenter, sous quelle forme la facture va se présenter. Donc, pour être tranquille, on a mis la même somme en fonctionnement et en investissement. Comme ça, de toute façon, si on ne la dépense pas, on la retrouvera dans l'excédent de fonctionnement ou d'investissement en fonction de l'endroit où on l'aura mis à tort. Voilà. À Calypse, voilà. Voilà, donc pour le fonctionnement, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Et pour l'investissement, donc on part sur une décision modificative de 298 679 euros, tant en recettes qu'en dépenses. Alors là, on retrouve des subventions d'investissement. Ça, c'est toutes les subventions dont on a reçu les accords depuis. Alors, vous voyez essentiellement que c'est des passages d'un compte à un autre, puisqu'on l'enlève d'un compte et on le remet sur un autre. C'est parce qu'on a reçu des instructions de notre trésorerie générale qui nous a dit qu'il fallait faire comme ça. Voilà, mais on a quand même 297 839 euros de subventions qu'on n'avait pas inscrits au budget et qu'on peut désormais reprendre. Et on a 840 euros qui sont des opérations d'ordre entre sections. Ça, je ne pourrais pas vous donner le détail. Et en dépenses, on retrouve donc les 70 148 euros qui correspondent à peu près aux 68 000. Ça, c'est la dépollution du Péchier. Et puis, on retrouve un petit saupoudrage sur des comptes réajuster ce qui nous manquerait. Par exemple, les 11 940 euros, ce sont des études complémentaires, de la maîtrise d'œuvre de la vidéoprotection et l'étude du sol du tennis. Voilà. Et puis après, les autres comptes, ce sont effectivement des dépenses supplémentaires. Et voilà. Donc, autrement, il n'y a rien.
L'étude sur le tennis, vous savez qu'on s'y était engagé dès le début de la mandature. Donc, le déplacement du tennis extérieur de derrière le NEC en bas, à côté du tennis club. On avait dit 2023 ou plus tard 2024, donc on y est, mais avant d'installer un court extérieur, voire éventuellement un court extérieur plus un padel, si on peut, à la demande du club, compte tenu aussi du fait que, souvenez-vous, ils étaient venus vous présenter leur projet de développement particulier vis-à-vis du handicap et des enfants. Donc on est dans cette logique, sauf que là où il doit être implanté, on est au bord du Furan. Donc il faut absolument faire une étude géologique et technique, que le jour d'une crue, le terrain ne parte pas avec. Voilà. Donc on fait d'abord l'étude, et après, au retour de cette étude, en termes de faisabilité, on prévoira éventuellement le budget nécessaire en 2024 pour réaliser ce cours extérieur.
Voilà, donc on vous demande par délibération d'autoriser Monsieur le maire à signer cette décision modificative numéro 1.
Donc qui est contre ?
Eh bien parce qu'on avait dû sous-estimer certainement le montant de facture d'eau qu'on aurait à régler. Oui, eau et assainissement, 30 000 euros. Tout à fait.
En quoi ?
Oui, alors, si vous voulez, c'est ce que vous a dit Michel.
Ah oui, alors ça, c'est...
Quand on fait un budget, on remplit des cases pour arriver à l'équilibre. Alors, c'est vrai que sur le fonctionnement, on n'est pas... comme tu dis, optimiste, mais on est prudent. Donc, on met des sommes peut-être supérieures à ce qu'on pourrait dépenser. Mais comme on ne les maîtrise pas, on met ce qui est des évaluations. Et en recette, on n'est pas pessimiste, c'est-à-dire qu'on ne surévalue pas ce qui va rentrer.
Alors, ben, oui. Il y a une autre explication. Moi, 45 000, en fait, c'est souvent, alors ce n'est pas pour la totalité, mais pour une bonne partie dans ces 45 000, donc il y a effectivement des choses qu'on ne dépensera pas. Mais souvent, on met là les voyages, les séjours du pôle enfant-jeunesse, et essentiellement le séjour des ados. Parce que comme ils sont en gestion directe, on met à une somme fixe, on sait que c'est le budget du séjour ado. Mais après, quand les factures arrivent, on est obligé de dispatcher ce qui est l'alimentation, ce qui est les activités, ce qui a pu être les transports. Et c'est pour ça qu'on enlève une somme importante à ce compte-là et on le redispatche après. Vous voyez, sur l'alimentation, sur des choses comme ça, il y a eu des... Alors attendez, je ne vous dis pas de sottises. Ouais, en principe, il y a ça. Et puis, effectivement, peut-être aussi des choses qu'on avait...
Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un budget. Donc, on a rempli des cases avec des montants. Aujourd'hui, pour l'équilibrer, alors on ne l'équilibre pas, on l'augmente. Hein. On est bien d'accord. Au bout du compte, on joue sur les sections. Là, on n'a pas tout dépensé. Alors, quand on dit l'électricité, on a fait une économie, ce n'est pas forcément ça. C'est que l'estimation qu'on avait faite était surévaluée par rapport au consommé constaté à ce jour. À ce jour, hein. Donc on est toujours dans ces logiques-là, au même titre que au budget 2024, le gaz, il va prendre 50% parce qu'on sait qu'au 1er juillet, il va augmenter. Mais ça ne veut pas dire qu'on aura 50% d'augmentation sur l'année 2024. Donc on joue sur les sections, il en manque, il y en a encore un peu, on regarde. Donc notre responsable comptabilité projette les dernières dépenses jusqu'au 31 décembre, il y a de l'excédent, on le répartit. Voilà. Il ne faut pas aller chercher une explication pourquoi là il y a plus 30 000 ou moins 45 000. Ça, vous le verrez quand on vous présentera le compte de fonctionnement. Les dépenses réelles par rapport au budget, compte administratif. Donc, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Donc, les modifications budgétaires sont adoptées à l'unanimité et je vous en remercie. Le point suivant concerne des subventions. Donc, vous savez que le COS, le Comité des œuvres sociales, qui bénéficie d'une subvention annuelle, nous présente régulièrement une demande de subvention complémentaire en fin d'année. Pourquoi ? Parce que ça correspond aux cadeaux que le COS offre à certains de nos agents. En l'occurrence, là, on a 4 500 euros de demande pour 6 médailles du travail et 2 départs en retraite. Historiquement, pour ceux qui avaient suivi l'histoire de la Chambre régionale des comptes, avant, je crois que c'est avant 1995, la mairie payait directement et à l'époque, ça avait été remis en cause en disant que c'est un avantage en nature, enfin, vous voyez toute l'histoire par rapport à l'URSSAF. Donc, ce qui avait été décidé, c'est que le COS prenait en charge ses dépenses et la mairie remboursait à l'euro. Donc là, on a concrètement 1 200 euros pour 2 départs en retraite. Donc chacune 600, donc Madame Boyer et Madame Muller. 6 médailles, donc on a 2 médailles 20 ans pour 400 euros chacun. 3 médailles 30 ans pour 600 euros chacun. Et une médaille 35 ans pour 700 euros. Ce qui fait 3 300 euros plus les 1 200, ça fait bien les 4 500 qu'on vous demande de leur attribuer en subvention complémentaire. Des questions par rapport à ça ? Bon, c'est une démarche qu'on a chaque année. C'était il y a 2 ans, ils avaient demandé un peu moins le COS. Parce que compte tenu du contexte pandémique, ils avaient dépensé un peu moins. Donc, il leur restait de la trésorerie. Donc, ils avaient pris en charge 2 000 euros. Donc, qui est contre cette attribution ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, la demande est validée à l'unanimité. Le point suivant. Depuis quelques années, on observe une recrudescence des nids de frelons asiatiques sur la commune. Et cette année, ça a été particulièrement marquant, y compris sur les toits de la mairie, parce que nos ruches ont quasiment été assaillies et détruites par les frelons. Sur le domaine privé, la destruction de ces nids reste à la charge des particuliers et peut être prise en charge en partie par des financements locaux émanant des collectivités territoriales. Donc, si les nids sont sur le domaine public, il nous appartient bien évidemment de les détruire. Par contre, s'ils sont chez des particuliers, c'est incombe, bien sûr, la dépense aux particuliers. Les coûts fluctuent entre l'entreprise qui va être sollicitée, parce que ce n'est plus les pompiers qui le font, en fonction donc de la distance où ils sont, et puis surtout la difficulté d'accès de neutralisation du nid. Donc l'idée est la suivante, c'est qu'on prenne une décision de fond qui consiste à dire pour cette destruction et exclusivement des nids de frelons asiatiques. D'accord ? Je ne parle pas des chenilles professionnelles ou autres nids qui sont sur le domaine privé, donc chez les particuliers, la commune prendra en charge une participation à hauteur de 50 euros. C'est ce que je vous propose. Après, les interventions, elles peuvent fluctuer entre 80 et 200 euros. Hein. Bon, il y en a même des entreprises qui disent c'est 230, mais bon, comme c'est vous, je vais vous la faire à 180. C'est sans doute le principe des soldes. Ce que je voudrais quand même rappeler aussi, c'est que nos décisions ne peuvent pas être rétroactives. Ça veut dire que les particuliers qui ont été frappés par la présence d'un nid de frelons asiatiques sur leur domaine devront nous fournir des factures datées d'après le 6 novembre. Il n'y a pas d'ambiguïté, on ne peut pas revenir en arrière. D'accord ? Donc voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Je crois qu'on on doit en être à une bonne quinzaine de nids de frelons sur la commune identifiés, détruits. D'après les apiculteurs, ils nous disent que ce n'est qu'un début. Vous allez avoir une recrudescence si l'hiver est relativement clément comme l'an dernier. Ce n'est pas une quinzaine qu'il y aura l'an prochain, c'est 20, 30 ou 40. Et franchement, pour les avoir vus à l'œuvre, c'est impressionnant. Des questions par rapport à cette participation ? Oui, Hubert Blanchard. Tant pis.
Pour cette subvention offerte par la mairie, si c'est une fois pour le particulier ou s'il a sur l'année, s'il a deux nids
de frelons. Non, on participe à la destruction du nid de frelons concerné. Si malheureusement il en a trois dans l'année, potentiellement on l'aidera trois fois.
D'accord.
Hein, mais théoriquement, s'il est bien détruit, ça ne devrait pas se renouveler. Après, moi je ne peux pas dire, les apiculteurs seraient mieux placés que moi pour nous expliquer ça, comment les nids peuvent se démultiplier. Les conditions climatiques, ils sont très favorables, c'est certain. Sur les ruches de la mairie, là, les apiculteurs ont placé une espèce de gouttière pour empêcher les frelons de rentrer. Ça a été encore plus catastrophique. Non, non, mais je veux dire, c'est la recrudescence qui a fait que c'était quelque chose d'incroyable. Voilà. Donc vous êtes d'accord sur le principe de la participation et d'un montant de 50 euros ? Très bien. Alors, qui est contre la décision ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc on valide cette participation. Surproduction de factures. Je vais passer la parole à Rémi Mounier pour la subvention exceptionnelle au sel natation.
Oui. Bonsoir, Rémi Mounier. Donc la subvention qui concerne le sel natation, donc le club de natation de Saint-Priest-en-Jarret, qui est affilié donc à la fédération FSGT, elle-même adhérente à la Confédération sportive internationale travailliste qui organise tous les 4 ans des Jeux sportifs mondiaux. Cette année, les Jeux se déroulaient à Cervia, en Italie. La prononciation est bonne ?
Avec du gorgonzola.
Compétition du 5 au 10 septembre en Italie. Et la FSGT a fait participer une délégation de 25 nageurs français. Parmi ces 25 nageurs français, 2 étaient issus de notre club du sel natation. Manon Bruyère en catégorie de plus de 18 ans et Léonard Raya-Mangin en catégorie de 14-15 ans. Ces nageurs ont été sélectionnés selon leur performance sportive sur plusieurs saisons. Le déplacement a été organisé par la FSGT. Le coût total par nageur est d'environ 1 000 euros, dont 350 restent à la charge des familles et à la charge du club, puisque c'est le club qui prend en charge ces 350 euros. Du coup, aujourd'hui, nous prenons la décision de passer une subvention exceptionnelle de 600 euros afin de prendre en charge à notre niveau les frais de déplacement pour nos deux nageurs. D'un point de vue sportif, la délégation française a récolté 5 médailles d'argent et 18 en bronze. Malgré de bonnes performances, les nageurs mounards, eux, n'ont hélas pas pu monter sur le podium. Donc, je reprends les éléments d'information de la délibération. 2 nageurs du club de SEL Natation ont été sélectionnés pour les championnats du monde à Cervia en Italie du 5 au 10 septembre 2023. Je vous propose de verser au club SEL Natation une subvention exceptionnelle de 600 euros pour participation aux frais de déplacement.
Qui est contre ? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc on valide la subvention exceptionnelle au sel natation. Proposition suivante. L'association Astromia 42 a organisé début août, à l'occasion de la Nuit des Étoiles, le Célestival, festival d'astronomie, mais ouvert en particulier aux familles. Cette année, l'association dégage un déficit de 650 euros. Plus concrètement, le déficit sur le Célestival en tant que tel est d'un peu plus de 787 euros. Et donc, l'équilibre financier nécessaire est de 650 euros. Je vous rappelle que quand on avait rencontré son président, on s'était engagé à ne pas donner une subvention a priori exceptionnelle pour cette manifestation, mais qu'on verrait au niveau des comptes. Donc, on a tous les éléments, bien sûr, financiers. Célestival, je ne vous en reparle pas, puisque vous savez très bien ce qui s'est passé. Parmi les membres du Conseil, certains sont membres d'Astromia, qui continuent d'ailleurs à se développer avec des actions à destination des jeunes et des enfants, donc avec des projets, d'ailleurs, hein, pour l'année 2024, mais ça, on en reparlera. Bon, le déficit approximatif est de 650 euros. Moi, je vous propose de leur accorder une subvention exceptionnelle de 600 euros. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc, ce qu'on peut dire, ça a été une belle réussite compte tenu de la date, tout au début du mois d'août, donc beaucoup de familles absentes et du temps qui n'était pas forcément le meilleur partenaire. Le vendredi, l'exposé qu'il y a eu avec un astrophysicien a rencontré un franc succès. C'est quelque chose de très intéressant. Et puis la partie Nuit des Étoiles, observation au CRE également. Donc je vais demander, alors, membre du bureau, il y a Michel. Il n'y a que toi qui es membre du bureau. Hubert aussi. Et puis c'est tout. Toi, tu es membre du bureau ou pas? Bon, vous êtes adhérent, très bien. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour leur accorder une subvention exceptionnelle d'équilibre de 600 euros? Qui est contre? Qui s'abstient? Michel et Hubert, et qui est pour. Donc, hormis les deux abstentions, la subvention est accordée à l'unanimité. Je vous remercie. Ouais.
Alors, on revient aux délibérations purement financières.
Avant, je voudrais vous dire quelque chose, parce qu'il a fallu que je fasse le travail dans ma tête. On vous présente des admissions de valeur, des créances éteintes, des créances prescrites à la demande du Trésor public. On le fait chaque année, on voit des choses qui disparaissent, qui reviennent. À un moment donné, on ne sait plus trop comment ça marche. Donc, une admission en non-valeur, c'est une annulation des créances jugée irrecouvrable. C'est-à-dire que nous, on a une dette vis-à-vis d'un tiers, on ne peut pas la recouvrer. La personne est partie sans laisser d'adresse ou la faiblesse du montant qui ne permet pas une mise en recouvrement. Elles sont bien, malgré tout, passées en charge de l'exercice. Ce qu'on vous propose en admission en non-valeur, ça devient cette année une dépense, une charge de l'exercice. La créance éteinte, contrairement à l'admission en non-valeur, elle est devenue irrecouvrable suite à une décision de justice, en particulier une liquidation judiciaire. On ne peut plus recouvrer parce que l'entreprise a disparu. Là aussi, c'est passé en charge de l'exercice. Enfin, les créances prescrites, elles ne sont plus exigibles car les délais de recouvrement ont été dépassés. Elles sont également enregistrées en charge. Donc les trois types de créances sont des charges de l'exercice, mais ça ne veut pas dire que dans l'avenir, elles ne pourront pas être couvrées. Si celui qui est parti sans laisser d'adresse revient, ou voilà.
C'est un petit peu pénible, parce que chaque fois qu'un nouveau trésorier arrive, il nous dit « Oh, les autres n'ont pas fait leur travail, je vais mettre le nez dans les créances qui restent. » Et il nous dit toujours « Ça y est, c'est apuré. » Et on se retrouve encore cette année avec des sommes qui sont quand même relativement importantes. Je ne sais pas si vous avez fait le total, mais rien que pour les admissions en non-valeur, on a quand même 33 341 euros. Or, j'ai un peu du mal à considérer que la TLPE, la taxe locale sur les publicités extérieures, si la société existe toujours, comment on peut ne pas recouvrer ces sommes-là? Enfin bon, c'est le percepteur qui nous dit qu'il faut faire comme ça, ce qui ne veut pas dire qu'on ne les récupérera pas un jour ou l'autre, hein. Mais bon, pour l'instant, on est obligé de les admettre en non-valeur. Donc effectivement, le comptable de la commune, Monsieur le maire expose que le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnées par le maire jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés. Alors effectivement, si vous voulez, nous, quand on, par exemple, ils nous doivent la TLPE, on émet un titre de recettes à la trésorerie en disant que la société X nous doit 2500 euros TLPE et c'est à la trésorerie de recouvrer ça. Nous, on fait juste émettre le titre. Et normalement, c'est à la trésorerie de continuer et d'engager toutes les poursuites nécessaires pour recouvrer ces sommes-là si la personne ne paye pas en temps et en heure. Je pense que c'est arrivé à chacun d'avoir un peu oublié d'avoir une lettre de rappel. Après, on passe au commandement, puis éventuellement à la saisie ou des choses comme ça. Et normalement, lorsque toutes ces procédures ont été exécutées, on dit qu'effectivement, on n'a pas réussi à recouvrer. Bon, je ne comprends pas bien comment la TLPE peut passer sur ces choses-là, parce que ce n'est quand même pas des sommes négligeables. Vous voyez quand même qu'il y a plusieurs sommes de plus de 4 000 euros et que le total de ces sommes représente quand même 33 341,80 euros que nous, on avait inscrits en recettes, puisqu'on avait émis le titre de recette. Donc pour nous, c'était des recettes. Sauf que comme ça n'est plus, et bien maintenant, il va falloir qu'on émette un mandat. C'est-à-dire pour annuler la recette, ben qu'on émette un mandat comme quoi on va avoir 33 341,80 non pas à payer, mais qu'on n'aura pas en recette. En fait, c'est pour annuler la recette prévue. Oui, il y a des créances qu'on dit ans. Donc, on se demande pourquoi chaque trésorier qui, à chaque fois, nous dit « ça y est, j'ai tout apuré, youpi, on est à jour », nous ressort des sommes comme ça. Donc on demande donc l'admission en non-valeur de ces titres pour un montant total de 33 341,80 €, et émettre un mandat donc au compte 6541, admission en non-valeur, dont les crédits nécessaires sont ouverts au budget 2023 au chapitre 65.
Dans ces créances, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a plusieurs fois remboursement de la mise en fourrière 375 €. En fait, quand on fait une mise en fourrière, Le coût, normalement, est facturé au propriétaire du véhicule. Et toutes ces situations, c'est bien souvent, quand on ne retrouve pas le propriétaire ou que voiture volée la veille de la mise en fourrière ou des choses comme ça, au bout d'un moment, le recouvrement n'est plus possible. Donc, c'est pour nous, c'est à nous de le prendre en charge.
Je pense que vous avez eu, avec la délibération, le tableau des sommes et des choses qui n'ont pas pu être recouvrées. Et effectivement, on voit par exemple que sur la TLPE, et ben c'est un restaurant qui s'appelait Delice Walk et qui a disparu et qui n'a jamais payé son... Après, il y a pas mal de petites choses. Par exemple, il y a des gens qui doivent 8 euros à la crèche ou autre truc. On ne peut pas les recouvrer parce qu'on met pas en recouvrement en dessous de 15 euros parce que ça coûte plus cher de recouvrer la somme que de la toucher. Voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu... Et puis, il y a des 12,60, 8,40, 10, 20, mais bon. Après, c'est surtout la TLPE, mais ça correspond effectivement à un seul restaurant qui a fermé ses portes et qui n'a jamais voulu nous régler la TLPE. Qui n'existe plus, donc il n'y a plus moyen de...
Il n'existe plus ou il existe peut-être sous d'autres formes. Surtout des livres, woke. Hein, voilà. Donc, qui est contre cette délibération ? Qui s'abstient, qui est pour, donc on ne peut que la valider. Je vous en remercie.
Alors, on fait exactement la même chose, admission en non-valeur, sur la commune aussi de Saint-Priest-en-Jarret, mais sur la facture de distribution, la facturation de distribution d'eau potable. Hein, donc, pareil, le même paragraphe qui nous dit que le comptable de la commune est chargé normalement d'exécuter les recettes et les dépenses. Donc, on admet en non-valeur l'édite facture émise avant la date des transferts de compétences de la gestion de la distribution d'eau potable à la communauté d'agglomération sur le budget de la commune. Donc, vous voyez comme quoi c'est quand même relativement ancien, puisque c'est des sommes 132,78 qui sont dues avant que l'eau ait basculé à Saint-Étienne Métropole. Donc, je pense que les gens, il y a très longtemps qu'ils ont dû partir. Donc là, c'est pareil. On vous demande d'autoriser à constater la perte sur créance irrécouvrable en admettant en non-valeur les factures émises avant la date du transfert de compétences de la gestion de la distribution d'eau potable à la communauté Saint-Étienne Métropole au budget communal pour un montant de 132,78 et d'émettre un mandat au compte 6541 au budget ouvert au budget 2023 de la commune. Et le montant des, par contre, pour l'eau, le montant de ces admissions en non-valeur mandatées pour ces factures fera l'objet d'une demande de remboursement auprès de Saint-Étienne Métropole. Parce que nous, on peut pas, on n'a plus de budget d'eau. Donc, on va le payer sur notre budget d'eau à nous, mais Saint-Étienne Métropole va nous rembourser puisque maintenant, tout le budget d'eau est géré par Saint-Étienne Métropole.
Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? On valide cette décision. Merci.
Alors maintenant, on passe aux créances prescrites, c'est-à-dire que ce sont les créances dont les premières... vous savez que le Trésor, quand vous lui devez de l'argent, il ne peut remonter que sur les 4 années précédentes. Par exemple, si vous avez oublié de déclarer quelque chose, si c'est antérieur à si ça a fait 5 ans, il ne pourra pas vous réclamer les sommes dues. C'est le délai est de 4 ans. Et donc, les créances prescrites sont des créances, effectivement des créances dont les poursuites n'ont pas donné suite ou n'ont pas été faites à temps, là encore une fois, par le Trésor public, pour récupérer ces sommes. Donc, toujours la même chose, hein. Le comptable du Trésor expose qu'il n'a pas proposé, dans le délai de prescription de 4 ans, d'admettre les récouvrabilités des titres 702 émis en 2011 et 1173 émis en 2018, bien, qu'il convient dès lors de constater comme créance prescrite. Donc, il incombe au conseil municipal de constater la prescription des créances suivantes. Donc, il y a des droits d'inscription à la cantine pour 127,35 € et des droits d'inscription au temps d'activité périscolaire pour 24 €. Voilà. Donc, on vous demande d'autoriser à admettre la prescription des créances précitées pour un montant de 151,35 € TTC et d'émettre un mandat au compte 678, autre charge exceptionnelle, ouvert au budget primitif 2023, chapitre 67. Et effectivement, quand on regarde, c'est bien des... Donc là, c'est certainement des gens qui sont partis et dont on est incapable de retrouver la trace, donc de poursuivre les poursuites pour récupérer l'argent.
Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité, on valide donc la perte de ses créances.
Alors, pareil, les créances prescrites sur le budget de l'eau, hein, c'est pareil. C'est aussi des créances qui n'ont pas pu être recouvrées dans le délai légal des 4 ans. Donc, par eau et assainissement, il y en a pour l'année 2010, pour l'eau 505,66, pour le budget d'assainissement 301,93,807,59, pour l'année 2011 86,95. Bon, en fait, le total, je vais vous dire, je ne vais pas vous donner tout le détail, mais le total pour le budget d'eau, 727,59 et pour l'assainissement, 301,93, soit une somme de 1029,52. Donc, on vous demande d'autoriser à admettre la prescription de ces factures et d'émettre un mandat au compte 678. Mais là, comme pour les admissions en non-valeur, comme c'est pour le budget d'eau et d'assainissement, le montant de ces créances prescrites pour ces factures fera l'objet d'une demande de remboursement auprès de Saint-Étienne Métropole. Mais comme c'est nous qui allons... Comme c'est nous qui avions prévu ces recettes et qu'on les annule, il faut bien que quand même ça passe sur le budget communal. Voilà.
Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? À l'unanimité, on valide cette décision. Merci.
Et là, alors cette fois-ci, bon, la dernière, on passe sur la constatation de créances éteintes, c'est-à-dire là où il y a des règlements judiciaires, c'est-à-dire des liquidations judiciaires d'entreprises. Le comptable du Trésor expose qu'il convient d'émettre un mandat au compte 65-42 du budget de la commune pour donner suite à la clôture pour insuffisance d'actifs de la procédure ouverte à l'encontre de Le Grand Panier Bio et Medica Confort. Et là aussi, c'est 2 fois de la TLPE. De TLPE 2023 de 620,88 €. Ça, je crois que... Attendez, que je ne vous dise pas de sottises. 620, c'est pour Le Grand Panier Bio. Et 475,20 €, c'est pour Medica Confort. Et on vous demande donc d'autoriser à admettre en créance éteinte les titres précités pour un montant de 1096,08 TTC et d'émettre un mandat au compte 65-42, ouvert au budget primitif 2023, chapitre 65.
Donc là, vous avez le nom des entreprises qui ont mis la clé sous la porte. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui valide ces décisions? À l'unanimité, elles sont validées. Et je passe encore la parole à Michel, cette fois-ci, pour le changement des règles comptables.
Oui, donc vous savez que la règle de la comptabilité publique n'est pas du tout faite de la même manière que la comptabilité privée, puisqu'on n'a pas de comptabilité en double part, puisque la double part, en fait, la deuxième part, c'est le trésor public qui l'a fait. Et on a des nomenclatures, c'est-à-dire des, bah, exactement comme en compta privé, hein, des chapitres, des articles. Et jusqu'à maintenant, depuis déjà nombreuses années, parce que moi, c'était au début que je commençais à travailler, on était passé à la comptabilité M14. Et là, depuis au 1er janvier 2024, on va être obligé de passer à la comptabilité M57. Alors, je vous rappelle juste qu'effectivement, la M57 deviendra le référentiel de droit commun, hein, qui fixera les règles budgétaires et comptables de toutes les collectivités au 1er janvier 2024. Cette instruction applicable aujourd'hui aux métropoles, qui est la plus récente, la plus avancée en termes d'exigences comptables et la plus complète, résulte d'une concertation étroite intervenue entre la Direction générale des collectivités locales, la DGCL, la Direction générale des finances publiques, la DGFiP, les associations d'élus et les acteurs locaux. Reprenant sur le plan budgétaire les principes commun aux trois référentiels M14. Donc, la référentiel M14, ça considérait, c'était pour les communes et les intercommunalités. La M52, ça, c'était la nomenclature des départements, et la M71 des régions. Elle a été conçue pour retracer l'ensemble des compétences exercées par les collectivités territoriales. Le budget M57 est ainsi voté soit par nature, soit par fonction, avec une présentation croisée selon le mode de vote qui n'a pas été retenu. Alors, je ne vais pas vous donner tout le détail de la délibération. Je vais vous donner les principaux changements qui concernent la M14 et la M57. La première, c'est sur les amortissements. Vous savez, quand on achète un bien, bon, c'est par exemple un camion, on achète un camion et on décide que ce camion va s'amortir sur 5 ans. Jusqu'à maintenant, on amortissait on commençait l'amortissement l'année N+1 qui suivait l'achat. C'est-à-dire que si on l'achetait le 30 mars ou qu'on l'achète le 14 juillet ou le 26 décembre, on commençait à l'amortir au 1er janvier de l'année N+1. Maintenant, il va falloir l'amortir au moment où on l'achète. Ce qui fait que si bien, ça ne va pas créer beaucoup de soucis, il va falloir tenir le compte de l'actif tout au long de l'année. C'est déjà casse-tête pas possible, mais là, ça va être tenu tout au long de l'année. Il n'y aura plus de crédit pour les dépenses imprévues. Alors là, je ne comprends pas bien comment on va faire, parce que, vous savez, le chapitre dépenses imprévues, c'est notre petite réserve. C'est ce qu'on estime pouvoir utiliser si on a une casse importante, si on a un chapitre, si on a une dépense qui s'impose ou qu'on décide de commencer un programme plutôt que prévu. Ben, on l'aura plus, ce dépenses imprévues. Et je ne sais pas comment on va équilibrer le budget, parce que souvent, on a quand même, et heureusement, un peu plus de prévisions de recettes que de prévisions de dépenses. Donc, ce qui veut dire qu'on va être obligé d'affecter toutes nos prévisions de recettes. Ce qui, ça va être du grand loto. C'est-à-dire qu'on va dire, tiens, on va mettre 10 000 là, on va mettre 10 000 là, en sachant et en se mettant un petit coin dans la tête que ces 10 000 là, il ne faut pas les dépenser surtout. Parce que nous, l'avantage, c'était que c'était sur un compte à part et on savait que c'était quelque chose qu'on utilisait vraiment qu'en cas de gros pépin. Là, on va avoir 10 000 euros, on va dire, mais c'est bon, on a encore 10 000 euros d'achat de mobilier. Oui, mais ça, c'était un peu notre réserve, c'était ce qui allait faire notre excédent de l'année. Bon, on va voir comment on va fonctionner, mais ça ne va pas forcément être très simple. Il n'y aura plus d'opérations exceptionnelles. Bon, alors ça, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Par contre, la seule chose qui va être intéressante, vous savez, c'est que maintenant, quand on vous montre les décisions modificatives, on est obligé de passer par délibération quand on passe du compte achat de livres au compte entretien de voirie. On est obligé. Là, maintenant, dans la nouvelle nomenclature M57, on ne sera plus obligé. Le maire peut, par décision, alors on le verra bien entendu dans les décisions du maire, mais il n'y aura plus besoin de délibération de conseil municipal pour faire ce genre de choses de section à section, dans la même section, c'est-à-dire de chapitre de fonctionnement à chapitre de fonctionnement et de chapitre d'investissement à chapitre d'investissement, sauf une seule interdiction, ça sera sur les factures de personnes, sur les charges de personnel. Là, on n'aura pas le droit de faire des transferts d'un compte à un autre, parce que sinon, ça sera un peu ingérable. Voilà. Donc ça, c'est les plus grandes modifications de la M14 à la M57. Ça nous impose, vous l'avez vu, un nouveau logiciel, une nouvelle formation, et puis du travail en plus pour notre service comptabilité, parce qu'avec toutes ces histoires d'amortissement, de choses comme ça, et puis quand on change, il faut reprendre l'habitude, et ce qui était une routine ne l'est plus, et c'est toujours un peu compliqué. Donc, je vais vous lire juste la dernière partie de la délibération. Le maire propose au conseil municipal d'adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57, développée à compter du 1er janvier 2024, en lieu et place de la nomenclature budgétaire et comptable M14 pour le budget principal. De conserver les modalités de présentation du budget antérieur, c'est vôtre par nature, d'autoriser le maire ou son représentant à signer la future convention entre la commune et l'État portant sur l'expérimentation du compte financier unique. Alors ça, je ne sais pas trop ce que c'est. De constituer une provision dès l'apparition d'un risque avéré. Ah oui, ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que maintenant, si dès qu'on a... Nous, on le fait, on est prudent, mais il n'y avait pas d'obligation. C'est-à-dire si, par exemple, vous avez un contentieux sur un permis de construire, sur un litige avec, comme ça nous arrive en ce moment, par exemple, sur l'aménagement du bourg, on est obligé maintenant, dès qu'il y a le moindre souci, de provisionner de l'argent pour faire face à l'éventuelle somme qu'on va être obligé de débourser déjà en avocat et puis peut-être éventuellement en somme si on est condamné ou si on est reconnu. Par exemple, sur un permis de construire, on peut avoir des gens qui contestent les permis, peuvent gagner et du coup réclamer des dommages et intérêts. Et ça, il faut les provisionner tout de suite. Donc, de constituer une provision dès l'apparition d'un risque avéré en cas de dépréciation de la valeur d'un actif, d'ouverture d'une procédure collective et de créances irrécouvrables. Alors, c'est ce qu'on a vu. Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public. C'est une petite diligence, ça ne va pas très vite. Et ou en cas de mise en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire. C'est-à-dire que maintenant, ce sera à nous de provisionner chaque année pour les admissions en non-valeur. Plutôt que d'attendre la fin de l'année, il va falloir provisionner là-dessus. Et d'opter pour un régime budgétaire des provisions et dépréciations. D'autoriser le maire ou son représentant délégué à procéder, à compter du 1er janvier 2024, à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre, ce que je vous ai expliqué, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, et ce, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections. Effectivement, on ne peut pas basculer la totalité des sommes. Et d'autoriser le maire ou son représentant délégué à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération, et on en aura certainement une la prochaine fois, puisqu'il faut un règlement pour adopter cette M57, mais ça sera, je pense, au mois de décembre.
Alors, quelques commentaires. On voit que la comptabilité publique se rapproche énormément de la comptabilité privée. La notion d'amortissement ou prorata temporis, ça ne me choque pas. Et je pense que les calculs seront faits automatiquement par le logiciel. Ensuite, les dépenses imprévues, ça a été un petit peu, là aussi, une des critiques du rapport de la Chambre régionale des comptes, en disant que vous mettez des dépenses imprévues pour des montants relativement importants. C'était un petit peu notre marge de manœuvre. Donc là, les mêmes dépenses, on les ventilera. J'espère qu'un jour, si on a un contrôle, on ne dira pas qu'on surestime certains postes de dépenses. On verra bien. Mais là aussi, c'est la même logique. De toute façon, nos budgets seront toujours équilibrés. Et puis bon, sur les autres démarches de provision des créances ou pour charges ou des choses comme ça existe aussi dans le privé. Donc, après tout, ce n'est pas incohérent qu'on converge vers un modèle comptable. Quant au compte unique, vous savez qu'on vous présente un compte de fonctionnement administratif, compte administratif tenu par la mairie, par la collectivité, et on a en parallèle un compte financier tenu par le comptable public, un compte de gestion. Normalement, ils doivent être identiques, ou s'il y a des écarts, on doit pouvoir les justifier. Là, je crois qu'à terme, on sera sur un document unique, c'est-à-dire que le rapprochement se fera avant la présentation en conseil, et on vous présentera un document unique. Mais là aussi, dans le privé, il n'y a pas un compte administratif et un compte financier. Il y a un compte de résultats. Donc voilà. Forcément, on va basculer en M57. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc on va valider ce passage en nouveau mode de comptabilisation. Le point suivant, c'est un déclassement du domaine public. Le Code général de la propriété des personnes publiques, CG3P, confère un fondement législatif à la définition jurisprudentielle du domaine public immobilier. En application des dispositions de l'article L2111-1 du CG3P, font partie du domaine public les biens appartenant à une personne publique et qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affecté à un service public pourvu qu'en ce cas, il fasse l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. A contrario, l'article L 2211-1 du CG3P précise que font partie du domaine privé les biens des personnes publiques qui ne relèvent pas du domaine public. Donc, personne publique peut avoir des biens privés parce qu'ils ne sont pas à usage public. La commune est propriétaire de deux terrains qu'elle envisage de vendre, même s'ils ne sont pas affectés à l'usage direct du public, ni affectés à un service public. La commune souhaite néanmoins, par sécurité juridique, les considérer comme relevant de son domaine public. Il s'agit en l'espèce de deux espaces verts situés le premier avenue Pierre-Mendès-France, jouxtant la parcelle A081, d'une superficie d'environ 1080 mètres carrés. C'est un terrain qui est au-dessus du lycée Nord et qui touche le terrain du gymnase et du terrain de sport. Et le second, rue Victor Dréosti, issu d'une division de la parcelle AD253 et d'une superficie de 1272 mètres carrés. Donc c'est un terrain qu'on a détaché de l'ensemble du lot cadastral qui était affecté à l'école Jean Massé. Donc là, on isole un bout de terrain qui ne leur servira à rien dans le futur projet et on le bascule, nous, dans le domaine privé. Conformément aux dispositions de l'article L 2211-1 du CG3P, un bien qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public cesse d'appartenir au domaine public à compter du jour où il a fait l'objet d'un acte de déclassement formel. Sauf disposition particulière, une simple délibération du conseil municipal suffit à faire sortir un bien du domaine public. Il convient donc de procéder au déclassement du domaine public communal d'une bande de terrain du Pierre-Mendès-France jouxtant la parcelle A081, d'une superficie d'environ 1080 m² et d'une partie de la parcelle AD253, d'une superficie de 1272 m² rue Victor Dréosti. Vous avez eu, avec la convocation, les plans des parcelles concernées. Des questions par rapport à ça ? Donc on retouche, je dirais, le tissu cadastral pour isoler des biens, les sortir du domaine public, les basculer dans le domaine privé, pour pouvoir les vendre, tout simplement. On aurait pu s'en passer, mais on préfère, d'un point de vue juridique, se prévaloir du futur. Des questions ? Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, à l'unanimité, on valide donc cette décision du Conseil. On va basculer maintenant dans les questions relatives à la gestion du personnel. Le point suivant concerne le recensement 2024 et le nombre d'agents recenseurs. Je vous informe que la commune figure parmi celles concernées par la réalisation de l'enquête de recensement organisée par l'INSEE. Pour mémoire, il est rappelé que la commune de Saint-Priest-en-Jarret a effectué un recensement de la population en janvier et février 2018. La commune doit se charger du recrutement, de la gestion et de la rémunération des agents recenseurs qui seront placés sous l'autorité du coordonnateur communal afin de distribuer et collecter les questionnaires à compléter par les habitants, vérifier, classer, numéroter et comptabiliser les questionnaires recueillis. Pour préparer et réaliser l'enquête de recensement, la commune doit mettre en œuvre les moyens humains, matériels et financiers nécessaires. Suivant l'importance de la commune, qui est découpée en 13 secteurs, en fait on était à 12 secteurs, on est passé à 13, le recrutement devra donc être de 13 agents recenseurs au maximum. La collecte des informations débutera le 18 janvier 2024 et se terminera le 17 février 2024. Le montant de la rémunération des agents recenseurs est déterminé et fixé librement par la commune. Au vu de ces éléments, il vous est proposé de bien vouloir fixer la rémunération des agents recenseurs en fonction du nombre de bulletins remplis, complets, vérifiés et classés, soit 4,50 euros brut par feuille de logement, 100 euros pour la tournée de reconnaissance, 40 euros par demi-journée de formation, 150 euros pour couvrir les frais de télécommunication et de transport. Et il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir créer 13 postes d'agents recenseurs au maximum, et décider donc de valider de la rémunération suivant les critères énumérés ci-dessus et m'autorisé à signer l'ensemble des pièces relatives au recensement de la population 2024. Je vous rappelle que le recensement est obligatoire, qu'on ne peut pas y déroger, mais que les agents recenseurs vous proposeront de faire vos déclarations directement par Internet. Des questions par rapport à ça ? Un secteur, c'est entre 250 et 280 logements, je crois, à peu près. Alors, les recenseurs, ben, d'une part, on travaille entre communes. Donc, ceux qui ont fait le recensement l'an dernier sur certaines communes, on a appelé les communes, ils ont adressé des agents recenseurs. On en avait certains qu'on connaissait déjà. Puis après, on a eu des candidatures spontanées, mais on a eu largement de candidatures par rapport aux besoins. Je crois qu'on a dû refuser, en gros, une dizaine de candidatures. On a privilégié ceux qui sont déjà rodés à ce genre de pratique. Il faut être ordonné, ce n'est pas simplement de déposer un questionnaire. Il faut s'assurer que la personne l'a bien... Alors, soit rempli sur Internet, soit récupéré manuellement, et après, bon, l'agent recenseur va aller sur l'ordinateur, il va compléter, il va valider, etc. Des questions par rapport à cette délibération ? Donc, qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour, on va valider le recrutement de nos agents recenseurs et je vous en remercie. Le point suivant, emploi permanent et création de postes. Je dois vous avouer que là aussi j'ai eu quelques difficultés à comprendre la philosophie de cette demande. Conformément à l'article L313.1 du Code général de la fonction publique, susviser les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Le comptable public informe le comptable public donc, que la délibération qui valide le tableau des effectifs ne vaut pas délibération créant emploi. Bon, s'il le dit. Ainsi, il convient de soumettre au conseil municipal une délibération rappelant l'ensemble des emplois permanents pourvus au 31 octobre 2023 en précisant la quotité de travail. Je vous rappelle que quasiment tous les mois, on vous présente un état des effectifs avec l'existant, les prévisions et les ajustements. Mais ce n'est pas grave, ça ne suffit pas. Donc vous avez un tableau où on vous reprend par filière les postes ouverts pourvus, les emplois permanents ouverts pourvus par des fonctionnaires, et des temps, les postes à temps complet. Je ne vais pas reprendre le détail. C'est la synthèse de ce qu'on vous présente chaque fois qu'on modifie le tableau des emplois. L'avantage, c'est que vous voyez apparaître plus facilement des postes à temps non complet. Après, alors je ne sais pas, Frédéric, si on va devoir, en plus des mises à jour mensuelles, fournir cet état en complément, ou si c'est qu'une fois par an, je m'interroge, mais bon. Donc voilà. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut dire ? Que nous avons, moi ce que je vois simplement, c'est à la fin, 132 emplois pourvus. Voilà. Ouais. Donc, je vous propose de confirmer la création des postes précités ci-dessus et de créer en application des articles L332-13 et L332-14 du Code général de la fonction publique, les postes suivants à compter du 1er décembre. Alors ça, c'est donc des postes complémentaires. Un poste d'adjoint administratif principal, première classe. Un poste d'adjoint administratif principal, deuxième classe. Un poste d'adjoint administratif à temps complet. Un adjoint à temps non complet à 50%. Un adjoint technique à 60%. Un adjoint technique à 70%. Un adjoint technique à 80%. Et un adjoint technique à 90%. 5 postes d'adjoint technique à temps complet. 10 postes d'auxiliaire de puériculture à temps complet et 5 postes d'assistant d'enseignement artistique à raison d'une heure minimum par mois. Oui, ils sont dedans, mais ça, c'est une reprise du détail sur les temps partiels. Des questions par rapport à cette gymnastique intellectuelle du trésor public ? Je vous rappelle quand même que quand on produit nos comptes en fin d'année, ils nous demandent les équivalents temps plein, ça on peut comprendre. Après, les équivalents temps plein consommés. Ça veut dire que si on a quelqu'un, par exemple, à deux personnes à 50%, ça nous fait un équivalent temps plein. Mais si on a un agent à 50% au 1er juillet, Ça ne fait pas un 0,50, ça fait qu'un 0,25 si on le ramène en année pleine. Je ne vois pas franchement l'intérêt final de, ce suivi, mais bon, voilà. Donc, qui est contre cette présentation, cette décision? Qui s'abstient? Qui valide? Et avec beaucoup d'enthousiasme, on valide tous cette décision. Décision suivante. Et ça sera, je pense, la dernière, oui, enfin, dernière prévue. C'est la création d'emplois non permanents pour faire face à un accroissement saisonnier d'activité et donc autoriser le recrutement d'agents contractuels. Je vous rappelle qu'au Conseil municipal, que l'article L332-23-2 du Code général de la fonction publique autorise le recrutement sur des emplois non permanents d'agents contractuels pour un accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de 6 mois sur une période consécutive de 12 mois, renouvellement compris. Je vous expose également qu'il est nécessaire de prévoir l'animation des activités jeunesse au centre de loisirs municipal, le recours à des emplois d'été pour renforcer la gestion des travaux d'espace vert pendant la période estivale, le recours à des emplois... Alors, non, pardon, ça je l'ai dit. Si le recours à des emplois d'été pour renforcer la gestion des dossiers uniques d'inscription aux activités périscolaires et culturelles de la commune, l'accompagnement d'enfants en situation de handicap sur le temps périscolaire méridien et l'accompagnement de la petite enfance et des temps scolaires et périscolaires. Ces missions ne peuvent être réalisées par les seuls agents permanents de la collectivité. Donc c'est l'ensemble des missions que l'on va confier à des agents non titulaires. Ainsi, en raison des tâches à effectuer, je vous propose de créer, d'autoriser, de m'autoriser à recruter, à compter du 1er décembre 2023, 19 emplois non permanents sur le grade d'adjoint d'animation, dont la durée de service est de 10 heures par jour d'ouverture du centre de loisirs et en sus des heures de préparation pour donner suite à un accroissement saisonnier d'activités d'animation des activités jeunesse du centre de loisirs municipal. Donc ce sont les animateurs que l'on recrute pour les mercredis et les vacances scolaires. 10 emplois non permanents sur le grade d'adjoint technique à temps complet pour renforcer la gestion des travaux d'espace vert pendant la période estivale. Ce sont les jeunes que l'on recrute sur les emplois d'été. 10 emplois non permanents sur le grade d'adjoint administratif à temps complet pour renforcer la gestion des dossiers uniques d'inscription aux activités périscolaires et culturelles de la commune. Donc l'été, on recrute des jeunes qu'on met et sur les espaces verts et sur les travaux administratifs. 15 emplois non permanents sur le grade d'adjoint technique à temps non complet, à raison d'une heure minimum par mois pour faire face à un besoin ponctuel d'accompagnement de la petite enfance et des temps scolaires et périscolaires. C'est ce qu'on appelle le pôle renfort. La rémunération sera fixée par référence à l'indice brut 367, à laquelle s'ajoutent les suppléments illimités en vigueur, et la dépense correspondante sera inscrite au chapitre 012, article 64-131 du budget. Donc c'est en fait ce qu'on faisait, simplement on le reformule différemment, conformément à la demande donc de notre tutelle. Des questions par rapport à ça? Donc qui est contre, qui s'abstient, qui valide cette présentation, et je vous en remercie. Il nous reste une délibération, je ne me trompe pas, qui vous a été remise sur table. Par délibération 220602 du 7 juin 2022, le conseil municipal a désaffecté, déclassé du domaine public, comme nous l'avons vu pour d'autres terrains, donc déclassé du domaine public communal, une partie de la parcelle cadastrée AB158, soit environ 3939 m2, sur une surface totale de 7900 m2 environ, et a décidé de la mettre en vente. Par délibération 22-11-04 du 8 novembre 2022, le conseil municipal a approuvé cette cession au profit de la SAS Lotisseur de la Loire, moyennant le prix de 265 000 euros. C'est le terrain qui se situe au Charpenais, à côté du City Stade. Par délibération 23-02-09 du 20 février 2023, compte tenu de l'établissement d'un nouveau plan de division de la parcelle cadastrée AB158, le conseil municipal a décidé d'approuver la cession à titre onéreux d'une parcelle de terrain d'une superficie de 1576 m2 à détacher d'une parcelle d'une plus grande contenance cadastrée section AB158 d'une superficie cadastrale de 7922 m2 au lieu dit le Charpenais au profit de la SAS, lotisseur de la Loire, moyennant le prix de 265 000 euros. Un compromis de vente a été signé par les deux parties le 3 mars 2023. Cet avant-contrat, donc le compromis, a été régularisé sous la condition suspensive de l'obtention par la société lotisseur de la Loire d'une offre de prêt. La société lotisseur de la Loire n'ayant pas obtenu son financement, je vous demande d'approuver la résiliation du compromis de vente de la parcelle de terrain à bâtir, préciser et à m'autoriser à signer cet acte de résiliation. Les frais d'acte sont à la charge de la société du lotisseur. Donc l'avocat nous a proposé donc une résiliation du compromis. C'est du formalisme juridique, je l'entends bien, mais quand je lis « lesquels sont convenus de résilier d'un commun accord », non. Bon, je dirais que c'est plutôt du fait de l'acquéreur, mais ce n'est pas grave, c'est sur la forme. Voilà, et puis après, il y a d'autres formules comme ça. Alors, on ne va pas se braquer sur la formule, puisque le compromis était d'un commun accord, la résiliation le sera aussi. Voilà. Donc, ce monsieur qui avait un projet qui correspondait à nos attentes, souvenez-vous, 5 petites maisons dans le style de celles qui existent, avec un enjeu financier qui nous semblait intéressant, n'a pas obtenu son financement au motif qu'il n'a pas pu commercialiser au moins un lot parmi les 5. Donc la banque lui a refusé son financement et donc le compromis est de ce fait dénoncé. Voilà, c'est plus une information, mais je vous quand même proposer de voter cette délibération pour que je puisse signer ce désistement. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui valide cette décision? Et je vous en remercie. En ce qui me concerne, j'ai fini l'ensemble des thèmes du conseil municipal. Je vous rappelle que samedi à 10h30, nous avons la commémoration du 11 novembre. Donc toujours en deux étapes. Les discours officiels avec la présence de l'harmonie. Et une deuxième étape qui sera en mairie. Donc là, comme les autres années, on vous présentera deux fiches de vie de deux soldats qui sont tombés au front pour cette guerre. Et puis on aura sans doute la présence également de lycéens de Simone Veil qui participeront à cette manifestation. Donc je vous invite à venir nombreux. Voilà, le conseil est donc maintenant terminé. Je vais vous demander de rester en séance, simplement pour qu'on évoque un problème justement lié